Bienvenue dans Grindhouse, le podcast cinéma en double programme. Un podcast qui déterre pour vous, chers auditeurs et auditrices, les films les plus cultes, atypiques, les plus méconnus, en bref, les plus fous, tout simplement. Le concept, si vous ne le connaissez pas, il est simple. Chaque émission, je reçois deux invités pour deux films chroniqués que nous allons essayer de lier thématiquement. Alors aujourd'hui, c'est deux films un peu particuliers. On a Hundreds of Beavers de l'américain Mike Cheslick, et Les Chambres Rouges, un film québécois de Pascal Plante.
Mm-hmm, voilà, tout
c'est
à
bien
fait.
Ça. Et donc le thème du jour, comme je le répète, il est un peu particulier parce que ce qui lie les deux films aujourd'hui, c'est tout simplement le festival du film culte, le festival Offscreen dont on vous a déjà parlé dans l'épisode précédent, qui s'est clôturé ce 24 mars et dont mes fameux qui gèrent ce podcast assure aussi la délocalisation à Liège avec un membre de l'équipe qui est l'une d'entre vous. Et justement les invités, j'y viens. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Caroline Poisson, qui est peut-être une voix que vous connaissez si vous avez l'habitude de m'entendre.
Bonjour.
Et Marine Labourie, qui est aussi, à mon avis, une voix que vous connaissez si vous connaissez un peu ma voix dans d'autres émissions.
J'espère bien, et bonjour.
Salut. Alors, parmi les projections de cette année, donc il y a deux premières, ce sont les deux films en fait, qu'on va chroniquer aujourd'hui, ce qui explique en fait, la présence de nos invités du jour, puisque en fait, Marine, ça on ne l'a pas encore dit jusqu'ici, peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu fais partie de l'organisation de la délocalisation liégeoise avec moi. Et donc, dans ce cadre-là, tu as pu découvrir les films, évidemment, avant tout le monde, et notamment Les Chambres Rouges, pour lesquelles tu as eu un vrai coup de cœur et que tu vas venir présenter avec moi. Donc, ce sera au Churchill bientôt. C'est dans ce cadre-là que je t'accueille aujourd'hui. Et alors toi, Caroline, en dehors de tes activités de réalisatrice, tu fais aussi pas mal de programmations, on l'a déjà dit, avec le Popcorn Club qu'on anime tous les deux, et aussi tu as un ciné-club qui s'appelle le Pirate Movie Club, dans lequel tu accueilles une projection de la délocalisation depuis 2016, je crois.
Oui, je pense.
Je pense que chaque année,
déjà
depuis 2016, déjà,
oh,
ouais, c'est
oh là
ça.
Là.
Depuis 2016. Et donc cette année, Hundreds of Beavers sera diffusé dans ton ciné-club. Donc encore merci. Et oh, merci d'être là.
Merci à vous.
Voilà. Donc Marine, on va donc commencer par Les Chambres Rouges, donc, qui est un film qui nous vient du Québec. Est-ce que tu peux tout d'abord nous dire de quoi parle ce film?
Alors, donc Les Chambres Rouges, ça ne parle pas de peinture, d'appartement, mais ça nous parle en fait de l'obsession, on va dire, de deux femmes pour un homme qui est accusé d'avoir tuer trois adolescentes, et qui va partager justement leur exécution sur le dark web. Donc dit comme ça, en fait, on pourrait penser à un film de procès, parce que ça se passe principalement, enfin le film commence comme un film de procès, mais va beaucoup plus loin. Lui, ce qui l'intéresse principalement, c'est de montrer vraiment ce phénomène qui est les groupies de tueurs en série. Donc on va beaucoup plus tourner vers donc ces deux femmes. J'ai pas les noms là tout de suite, j'ai le nom des actrices, mais j'oublie toujours les noms des personnages, mais en tout cas on va dire Kellyanne et Clémentine. Pardon, Kellyanne et Clémentine, merci Caro, qui vouent en fait une espèce d'obsession malsaine aux tueurs qui est représenté dans le film, et on va essayer un petit peu, pas forcément de comprendre, mais de suivre leur développement quand même psychologique tout au long du long métrage.
Donc tu l'as découvert récemment le film hein, Non, c'était il y a un moment, je crois que tu l'as découvert.
Alors moi en fait je l'ai découvert avant ici off-screen, parce que c'est un film qui a fait la tournée quand même de beaucoup de festivals, que ce soit au Québec, au Canada, mais également en France et aussi en Belgique. Et aussi, il est passé au FIF.
Oui, tout à fait. Mais en fait, voilà, il est passé à Offscreen. Je veux dire, maintenant que Offscreen est terminé, il est passé à Bruxelles. Quoi.
Et il est passé à Bruxelles, voilà, tout à fait. Donc, il a fait déjà la tournée de pas mal de festivals. Donc, il y a déjà des gens qui ont pu le voir. Et il faut savoir que c'est un film qui a un peu affolé la critique. En fait, il a un peu débarqué de nulle part. Et il a vraiment surpris et la critique et les spectateurs, qui ont été un petit peu unanimes pour dire que c'était quand même finalement un grand thriller, ou un thriller assez percutant. Donc on en a énormément parlé sur internet, sur les réseaux, dans le milieu journalistique, et c'est ça qui m'a donné envie aussi de le voir. Hein. Cet affolement sur internet, et donc je suis très contente qu'on puisse le passer ici à Liège et que le public liégeois puisse le découvrir enfin à son tour.
Alors il y a une habitude souvent hein, lorsqu'on parle de la programmation d'Offscreen, si jamais vous découvrez peut-être avec ce podcast, ça m'étonnerait quand même, mais en gros le parti pris d'Offscreen tourne énormément en fait dans sa programmation autour du cinéma d'exploitation. Et souvent, quelque chose qui est très racoleur, qui tourne autour du sexe et de la violence. Et là, bah justement, donc, tu es en train de nous dire que ça parle du côté un peu voyeuriste, qui est au tueur en série, aux faits divers macabres, etc.
Oui.
Est-ce que ce film est gore?
Alors, Oui, non. Alors non, non. Déjà, on ne voit, je pense qu'on ne voit pas une seule.
Tu réponds ce que tu veux. C'est toi non. qui. Tu es maîtresse.
Ton
maîtresse,
avis. Il n'est pas gore parce qu'on ne voit pas vraiment. En fait, on n'assiste pas à des scènes de violence pure et dure qui sont montrées de manière frontale. Mais c'est là toute l'intelligence du film, c'est que justement, au lieu de faire ça, il va dérouter le spectateur en utilisant la mise en scène notamment par le son, par les visages des acteurs, par certaines scènes qui décident de dévoiler quand même pour amener une violence, mais une violence qui est horrible. En fait, et puisqu'on ne montre pas frontalement, on l'imagine et c'est bien pire. La musique également, parce que la musique est vraiment sous forme de cri. En fait, on a l'impression d'entendre un cri perçant, donc on va vraiment jouer là-dessus sur la psychologie des personnages.
Je crois même que c'est présent dans la bande-annonce. Hein.
La musique.
La musique, cette espèce de cri.
Donc il utilise plein, je ne vais pas dire des artifices, mais la mise en scène pour choquer, mais ça va, je veux dire, ici, pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez venir le voir. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de trop hard qui est montré, mais la thématique quand même, parce qu'on parle de jeunes filles qui ont été assassinées dans des conditions effroyables, peut quand même percuter. Donc si vous êtes un peu mal à l'aise avec ce genre d'émotions, ça peut être difficile, mais je vous rassure, c'est visible.
T'évoquais le fait que ça s'ouvre comme un film de procès.
Oui.
Ce qui est peut-être pas tout à fait ça, je sais pas ce que t'en penses de ça.
C'est 20 minutes de procès.
C'est 20 minutes, oui, il y a quand même un long plan séquence justement, donc c'est pour ceux qui aiment justement ce mécanisme
oui,
de plan séquence.
Oui, ça s'ouvre comme ça.
Ça s'ouvre comme un film de procès, donc on pourrait laisser penser à ça. Moi au début quand j'ai commencé le film, j'ai vraiment pensé qu'on allait suivre le procès tout du long et que ça n'allait être que ça, que ça allait être une espèce de huis clos en fait dans un tribunal.
J'ai eu peur de ça aussi.
Mais ouais. Sauf qu'en fait ça s'éloigne complètement des plaidoiries pour pas se rapprocher finalement du quotidien des femmes. On les voit en fait du début de la journée où elles campent devant le tribunal pour après les suivre parfois lors des plaidoiries, mais aussi après pour les suivre chez elles, pour voir comment elles vont tenir tout du long. On les voit beaucoup, et c'est aussi un autre point que j'aimerais développer par la suite, mais on les voit aussi beaucoup à travers les écrans, parce qu'on a notamment un des personnages, donc le personnage de Kellyanne, qui est modèle, donc qui est vu à travers les sites internet pour lesquels elle pose, qui est vu, elle est également... joueuse de poker en ligne, donc on la voit aussi beaucoup à travers son écran en tant que joueuse de poker. Donc voilà, on va suivre plus leur quotidien aussi par la suite et la manière dont elle gère, évidemment.
Bah oui, c'est pas anodin parce que ce personnage principal, c'est quelqu'un qui a une forte existence en ligne. Et évidemment, bah, le sujet dont il est question, voilà, tu évoquais les écrans, bah, c'est quand même un vieux mythe d'Internet, les chambres rouges qui se rapprochent en fait du snuff movie.
Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, je trouve que, donc pour justement peut-être les cinéphiles qui écoutent, je trouve qu'on va très fort se rapprocher d'un film comme Thesis, par exemple, de Alejandro Amenábar, qui est, je pense, son premier film pour évoquer le snuff movie. Moi, j'ai tendance à dire que c'est peut-être le meilleur film sur le snuff movie depuis cette époque-là. On peut aussi évoquer d'autres films comme, j'ai pensé beaucoup à Vidéodrome. Mais alors là, c'est plus, moi, au niveau vraiment de la violence des images que de la mise en scène de shows journalistiques, de violences vues à travers des shows journalistiques, parce que ça dénonce aussi l'hypermédiatisation autour de la violence, des procès, etc.
Cette scène dans le film justement sur le show journalistique qui est fait autour de ça est très très bonne, je trouve. C'est vraiment une très très bonne scène où on voit vraiment comment ils en rient, comment ils décrédibilisent
la récupération médiatique.
Oui,
en fait,
c'est assez troublant comme scène.
Et même, je trouve la mise comment dire, toutes les interviews aussi de la maman d'une des filles, parce que j'ai oublié de le dire. Donc en fait, le postulat, c'est qu'il y a deux vidéos, il y a trois jeunes filles qui sont mortes, il y a deux vidéos de l'assassinat, enfin des assassinats qui ont été retrouvés et présentés, et il y en a une qui n'est pas retrouvée.
Et c'est là-dessus que je voulais un peu te lancer, c'est de dire si c'est pas un film de procès, est-ce que finalement ce serait pas un film d'enquête ?
Qu'est-ce que t'en penses toi, Caro ?
Mais si, moi, c'est vrai que je vous avais dit au départ, donc j'avais vu le début du film, et donc les 20 premières minutes, moi, le type film de procès, ça m'avait un peu rebuté. Et
il faut passer ce cap,
voilà,
effectivement.
Il faut passer ce cap. Et vu les nombreux films que nous devons regarder pour l'instant, pour nos nombreux épisodes,
c'est horrible.
Mais c'est très
chouette. Deux enregistrements cette semaine.
Ouais, oui. C'est très chouette, mais au départ, j'avais regardé vraiment le début, et je me suis dit, oh là là, non, ça va pas me plaire du tout. Et puis, effectivement, quand ça part plus dans ce film d'enquête où en fait donc ces deux jeunes filles, enfin Kellyanne particulièrement, est extrêmement en recherche de cette troisième vidéo. Et enfin, on va pas trop spoiler hein, parce que l'idée ici c'est que les gens viennent découvrir le film. Mais en fait on nous explique vraiment pas vraiment pourquoi en fait elle cherche ça, parce que c'est un personnage qui est extrêmement froid, qui est extrêmement glacial. Autant Clémentine, on voit très clairement sa psychologie, c'est très très clair, on voit qu'elle est amoureuse de comment il s'appelle encore le personnage,
Ludovic Chevalier.
Ludovic Chevalier, ouais.
On voit qu'elle est très amoureuse de lui, on voit que c'est assez clair son écriture, que Kellyanne, on ne sait pas si elle cherche cette vidéo pour prouver l'innocence de Ludovic, ou si au contraire elle est hyper excitée par ça, il y a quelque chose de très très perturbant là-dedans, et je pense que oui, que tu as raison Vincent, c'est... On est plus sur un film d'enquête par rapport à ça, mais on est surtout sur un film psychologique assez fort.
Ouais, et moi, c'est le terme qui me revient le plus quand je regarde ce film, c'est ambigu. C'est pas, voilà, y a une espèce d'ambiguïté qui tourne évidemment sur ce personnage principal, mais voilà, là à nouveau, on va pas trop s'apesantir dessus, on préfère vous laisser découvrir. Non.
Mais il y a vraiment une scène dans le film, je trouve qu'il y a un retournement complet au niveau psychologique. Tu vois laquelle
celle-là, on va peut-être pas trop la dévoiler.
Non,
parce que,
je vais pas du tout en parler. Il y a un travail du son exceptionnel. Un retournement particulier, ouais, au niveau du son et de la mise en scène. Donc je serais très intéressée d'en parler par la suite avec les gens qui écoutent le podcast et qui vont aller voir le film. Le film peut être percutant, pourquoi ? C'est parce que je pense qu'il va venir un peu. Il parle beaucoup aux spectateurs parce que ça vient nous chercher dans notre aussi, nous-mêmes, notre admiration et notre obsession des true crimes, par exemple. Parce qu'on vit vraiment dans une société où sur Netflix, il n'y a que des... Oui, j'ai dit true crimes. Il y a vraiment une fascination pour les tueurs en série. On regarde Netflix, on ouvre Netflix, il y a 25 documentaires hyper putassiers sur Jeffrey Dahmer, sur n'importe quel tueur en série.
J'ai fait le même lien par rapport à Jeffrey Dahmer, qui est que... Il y a eu des polémiques justement autour de cette série, et je pense que ça rentre vraiment dans l'air du temps, ce film.
Bien sûr, c'est ça, ça parle... En fait, ça parle pas que de l'obsession de ces personnes-là, des personnages du film, ça parle de nos obsessions à nous, parce que, enfin, moi, je regarde beaucoup ce genre de séries, j'écoute beaucoup des podcasts aussi qui parlent de tueurs en série, donc je peux parfois un peu m'identifier dans cette espèce de, je vais pas dire amour, c'est pas dit tout ça, mais de voyeurisme, de fascination qui peut parfois être malsain. Donc c'est très actuel aussi à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qu'on est beaucoup à partager en ce moment. Et c'est aussi pour moi se poser la question finalement. Pas que de nous, mais de ces chaînes médiatiques, ces plateformes de streaming qui mettent ça à notre disposition. Tiens, est-ce qu'ils ne viennent pas susciter cette envie malsaine en nous ? Ça pose question. Donc voilà, un autre débat peut-être qu'on pourrait avoir par la suite. Caro ?
Mais je suis d'accord avec toi, mais moi je vous avais dit au début, le film ne me plaisait pas. Quand on s'est vu samedi, je dis, oh non, quelle horreur, je dois vraiment me taper ce film, etc. Et puis je l'ai regardé en entier. C'est pas forcément une expérience de cinéma qui va me plaire, de base, surtout seule chez moi. Je suis assez curieuse de le revoir sur grand écran et je vais aller le revoir même si j'ai pas aimé le début du film. J'ai ressenti le même malaise devant ce film que le malaise que j'avais ressenti devant Bowling Saturn de Patricia Mazu l'année passée.
Je vois tout à fait ce que tu veux
dire. Alors que le traitement de l'histoire n'est pas pareil, c'est beaucoup plus frontal dans le film de Patricia Mazu, mais il y a une certaine mise en scène assez glaçante qui moi me met mal à l'aise et en même temps je n'ai pas aimé l'expérience de ce malaise et je me suis dit mais c'est peut-être ça en fait qu'il essaie de créer, c'est ce malaise. Donc en fait le film a réussi son travail sur moi, c'est que ça m'a réellement mise mal à l'aise. Et moi ça n'a pas forcément questionné cet amour, enfin même si j'aime beaucoup, hein, vous savez. Moi ça m'a posé question dans ma fascination pour le cinéma d'horreur. Vous savez on en parle souvent, notamment au Popcorn Club. Moi je suis fascinée par le cinéma d'horreur et je cherche avec véhémence, je me réjouis du bif, un film qui va vraiment me faire flipper. Et je me retrouvais dans ce personnage de Kellyanne qui était... immobile devant cet écran et qui ne bronchait pas et je me disais oh là là mais et franchement régulièrement je me dis est-ce que je suis pas un peu une psychopathe quoi et moi ça a vraiment questionné ça chez moi pas forcément pour votre case mais par rapport à ces films d'horreur qui vont toujours plus loin qui utilisent énormément le sexe et tout ce qui est snuff movie etc on en fait des faux snuff movie des faux torture porn etc enfin un truc un petit peu dégueulasse. Et ça m'a questionné là-dessus, et je pense que autant ce film, je n'ai pas aimé l'expérience, autant je pense que ça a réussi.
Et avec le genre de film qui, presque d'un côté, finit par t'insensibiliser.
Exactement.
Un peu à certaines images. Et c'est un peu rigolo parce qu'en réalité, les deux personnages féminins, donc principaux du film, c'est presque quelqu'un qui aurait vu trop de films d'horreur et qui réagit plus du tout, et
c'est
une
ça.
qui en découvre un pour la première fois.
Oui, ouais, exactement ça.
C'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, elles ont une réaction qui est totalement différente. Encore une fois, on voit juste sur leur visage, mais elles vont à un moment donné regarder une scène assez horrible. Il y en a une qui, en fait, est horrifiée, et c'est là où elle. Enfin, elle va changer, elle va vriller. Et l'autre qui vraiment, t'as l'impression qu'elle est en train de se taper les bisounours, quoi. Enfin,
vraiment.
C'est très très bizarre.
Et je trouve ça très très intelligent dans l'écriture, en fait. Et quand tu parles de ce, comme on dit, on ne spoile pas ce point assez
précis
dans ce retournement. Ouais. Et je trouve ça extrêmement intelligent, en fait. Et le malaise fonctionne. Enfin, je l'ai dit trois fois, mais le malaise fonctionne vraiment bien. Vraiment bien. Et la mise en scène est impeccable, quoi. L'écriture des personnages, tout, c'est assez...
Et les costumes qui jouent aussi, du coup, notamment dans cette scène, très particulier. Ouais.
Ah bah là, si vous n'avez pas réussi à hyper les gens, je pense que là, on a vraiment envie d'aller le voir. Mais peut-être rappeler la date et l'heure donc, de la séance qui se tiendra à Liège.
Alors, c'est le 4 avril, c'est un jeudi. Le lendemain, c'est vendredi, après c'est le week-end, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas venir. Un jeudi, 20h, donc tôt en plus, au Churchill à Liège.
Et donc le film suivant, là on arrive dans du côté du beaucoup plus délirant. Parce qu'on
autre
va...
ambiance. Hein.
C'est une autre ambiance.
Là on va rire quoi.
Une autre ambiance de film, une autre ambiance de salle, puisque ce sera donc dans ton ciné-club et qu'on va diffuser Hundreds of Beavers. Alors est-ce que c'est un film qui se résume? Est-ce que tu saurais le résumer?
Je vais essayer, je vais essayer. Okay. C'est l'histoire d'un vendeur d'Applejack, c'est une sorte de cidre qu'on va découvrir dans un générique animé incroyable. Sa réserve va être ruinée par des castors et il va donc devoir devenir le plus grand trappeur de fourrure d'Amérique du Nord et capturer ses castors pour réussir à gagner de l'argent, donc des objets, et en même temps le cœur d'une femme.
C'est exactement ce qui se passe dans le film.
Magnifique.
Bon, maintenant, il y a la façon de le dire, puis il y a la façon de le montrer.
Alors, j'ai pas vu du tout la même chose que toi, mais
c'est
pas passé le même film. Non, je rigole.
Non, bah, j'ai eu peur, je me dis, qu'est-ce que. En fait, je l'ai pas regardé. Je suis, non, c'est pas vrai. C'était une blague ou tu as vu.
Non, je rigole. Mais moi, je me suis braquée sur
l'esthétique.
Sur l'esthétique,
oui,
exactement.
Oui, bien sûr, mais d'abord, c'était le résumé du film.
Et tu as apprécié ce film?
J'ai adoré ce film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On parlera aussi avec Marine aussi. Elle a eu la même réaction que moi avec Les Chambres Rouges. Au début, on ne sait pas. Et puis en fait, elle a adoré. Donc,
merci de pouvoir spoiler. En parler.
Et donc, comme tu le dis, c'est un film. Alors, ce n'est pas juste une histoire simple, filmée simplement. L'esthétique est très, très particulière. Donc, on est sur un rétro noir et blanc assez représentatif d'une certaine époque du cinéma muet. Les castors, les lapins, les pics, etc., ce ne sont pas des animaux animés, ce sont des personnes avec des costumes. Et
donc taillé à lui-même, quoi.
Taillé à lui-même, avec des costumes en fourrure. On a également beaucoup d'animation utilisée. L'animation va à chaque fois être assez intelligente, parce que l'animation va être amenée pour défier les lois de la nature. Donc ce n'est pas de l'animation gratuite, c'est l'animation qui va vraiment servir l'histoire, qui va faire ce qu'on ne sait pas faire en temps réel. Ça m'a rappelé notre visionnage de Cactus Jack. Hein,
mais c'est fou, j'ai parlé de la même chose
évidemment.
En regardant le film la première fois. Et j'étais
moi,
pas avec Caroline.
Oui. T'as pas vu Cactus Jack?
Non,
Animan, c'est vraiment un très très chouette film. Les années 70, hein, je pense, à Kirk Douglas.
Début 70.
Mais alors, ici, bien mieux fait, évidemment. C'est un film qui joue énormément sur le burlesque. Alors, il utilise l'humour dit slapstick. Donc, le slapstick, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écouteraient, slapstick, ça veut dire bâton tapeur. C'est le bâton d'Arlequin dans la Comédia dell'Arte. Donc, c'est en fait un genre d'humour qui va impliquer une violence physique volontairement exagérée. Et ça va être la principale forme de communication des personnages entre eux. Ça rappelle beaucoup le cinéma de Buster Keaton, Peter Sellers, certains films de Méliès, évidemment. Donc, on est sur quelque chose de très, très humoristique, très, très léger de prime abord. Mais premièrement, au niveau technique, c'est incroyable. La technique, c'est virtuose. Franchement, le montage est impeccable. Moi, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. On pourra en parler avec Marine juste après. Je trouve que le montage est vraiment impeccable. Il y a une montée d'adrénaline dans ce film qui est assez folle. Autant même en termes d'image et de construction d'image. Au départ, c'est très vite, très simple. On est dans c'est la neige, donc c'est très, très, très clean comme
ouais,
ça.
Décor très, très enneigé, ouais.
Ouais, on est des Revenant, mais en mode Texavri, quoi.
J'ai aussi fait c'est très drôle.
C'est pour
ouais.
ça qu'on est potes. et de plus en plus le film va avancer, plus le film va se remplir visuellement. Puis on va avoir des éléments de l'animation, des couches, des recouches, un petit peu d'effets spéciaux, évidemment, parce qu'on est en 2023, donc il sait utiliser ça sans que ce soit obvious. Pour moi, il n'y a pas de demi-mesure, parce que ça crée vraiment un univers hyper cohérent. Tu rentres dedans à fond, quoi. Vraiment, Max Chastik, ici, il crée un univers cohérent. Maintenant, ce n'est pas son premier film. Il avait fait Lips, qui est un court-métrage. Il avait fait Like Michigan Monster, qui est un long.
Que j'ai pas vu.
Non, moi non ouais. plus, je ne l'ai pas vu.
Mais qui a l'air incroyable.
Qu'elle est incroyable.
Ça a l'air d'être dans le même délire.
La bande-annonce.
Franchement, ouais. c'est une tuerie. Mais alors, je trouve que derrière... Enfin, peut-être je donnerai mon avis après. Je veux d'abord, Marine, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, écoute, il faut savoir ici que pour les coulisses du podcast, donc on a beaucoup de... Comment dire? De groupes Messenger où on discute en fait des films et pas
nuit
que.
Nuit et jour.
Et donc j'ai regardé le film hier, mais comme l'a dit, on l'a dit un peu avant, fait dans mon dans une période, on regarde énormément le film, pas toujours de super qualité, et donc moi j'ai eu un petit peu de mal au début à me mettre dans l'ambiance. J'ai vraiment été très perturbée par le début du film, mais positivement, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le début. Et puis en fait après, je trouve qu'il y a quand même un peu un ventre mou où il se passe des choses, mais c'est des choses qui sont quand même, il y a un peu parfois une certaine redondance en fait dans l'action qui est proposée. Et puisque c'est un délire très particulier, faut aussi rentrer dedans, et j'ai eu du mal. Là où finalement la fin, vraiment, en fait, il y a un crescendo incroyable à la fin, et là j'ai été complètement prise. J'ai adoré la fin, et donc je suis ressortie avec des petites étoiles dans les yeux. Étoiles dans les yeux qui ont été augmentées quand je me suis penchée sur le reste de la filmographie du réalisateur et sur la page Instagram. Nous parlions également en off. Alors, le film, il faut que vous tapiez absolument 100 of Beaver sur Instagram, vous allez tomber sur la meilleure page Insta de votre vie où il y a des castors dans plein d'affiches de films bien connus. Comme je dis des trucs comme ça, mais genre
le Rocky Horror Picture Show,
Rocky Horror, E.T.
Toujours de taille humaine, alors.
Ouais. Toujours à taille humaine. Ouais, donc
les personnages sur les affiches sont remplacés par les hommes déguisés en castor. Voilà.
Et donc j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait vraiment une espèce de monde autour du film. Sinon, vraiment, pour mon avis global, je pense que c'est un des films les plus originaux que j'ai pu voir dernièrement. Je pense que c'est un des meilleur film qui mêle animation, prise de vue réelle et avec une inventivité au niveau de tout et de incroyable. Donc vous n'avez jamais vu ça ailleurs et il faut pas le rater. Il faut vraiment pas le rater.
Et il y a notamment un parti pris du film, je vais peut-être vous laisser embrayer là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de parole.
Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, donc c'est un film totalement muet, enfin, on n'a pas dit cinéma muet au début, mais c'est vrai que ce n'est pas que dans l'esthétique du cinéma muet, c'est également totalement muet. Donc
et c'est assumé.
Ouais, c'est totalement assumé. Alors que dans le cinéma muet classique, tu avais des panneaux nécessaires pour la compréhension de l'histoire. Ici, tu n'en as pas besoin. Oui, il y en a un.
Pour expliquer le titre.
Ouais, voilà. C'est ça. Bah, sinon,
non, des panneaux explicatifs, il y en a quand même quelques-uns. Hein.
Peu, hein.
Juste au centre du récit.
Mais au moment moi, j'en ai noté quelques-uns.
Non, mais avec des textes écrits.
Avec le vrai carton.
Le carton, ah, avec le dialogue écrit.
Ah oui, ok. Oui, parce que j'ai vu quand même quelques cartons qui arrivent en mode 3 heures plus tard. En fait,
oui, c'est ça. Mais je parle souvent dans les films muets classiques, tu as un personnage qui a l'air de dire quelque chose et puis tu vois qu'il a écrit ce qu'il a dit. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ici, tu n'as pas besoin de dialogue du tout, quoi.
Exactement. Et donc, on l'évoquait, c'est assez multiréférentiel. Il y a une vraie maîtrise de l'action, du cadre, etc. Et c'est surtout un film qui est très drôle.
C'est très drôle. Alors, moi, de base, je ne suis pas la première fan de slapstick. Ce n'est pas forcément un truc qui me fait hurler de rire de base. Ouais. Ici, j'ai hurlé de rire toutes les deux secondes.
Pareil.
Même pour des trucs hyper cons. Hein. Vraiment, ça, je trouve que dans la... Mais c'est virtuose parce que même la tu vas voir un Bip Bip Coyote, tu vas voir un Cactus Jack. Ouais.
C'est un cartoon, en fait. C'est un cartoon, c'est un Looney Tunes.
Mais ici, justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la même chose. Non, c'est pas grave. C'est que c'est pas la même chose. C'est que dans un Bip Bip Coyote ou dans un Cactus Jack ou quoi, t'as un plan assez fixe et tu as l'action qui se passe. Ici, tu as en plus la caméra qui bouge. T'as une façon de filmer, une façon de tourner autour de ce qui se passe, une façon de mettre en avant les éléments graphiques et humoristiques. T'as aussi un montage, comme j'en ai parlé tout à l'heure, extrêmement rythmé. Mais pour moi, ce n'est pas que un film marrant. Moi, ça m'a également rappelé le cinéma de Roy Anderson. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son cinéma. Nous les Vivants, qui est un film, je l'ai passé au Ciné-Club il y a des années, dans le cadre d'un festival de graphisme qui s'appelle Le Fig, qui n'existe plus maintenant à Liège. Roy Anderson, il fait des films à l'humour extrêmement grinçant. C'est un cinéaste suédois et il a une filmographie assez folle. Mais Nous les Vivants, moi, ça a été un de mes films doudou. C'est un film, mais c'est aussi une œuvre d'art. Ce que je trouve qui est ici le cas, c'est un film, mais c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre complète. Et Roy Anderson, il a dit un truc très, très beau. Il disait dans une interview, vivre est compliqué pour tout le monde et c'est l'humour qui nous sauve. Et je trouve qu'ici, c'est vraiment ça, parce que tu as ce personnage qui est vraiment dans une situation hyper rude. Il est dans ce grand nord, il est tout seul, il est par moments à poil. Et alors oui, c'est drôle, mais t'as vraiment cette recherche. Moi, il y a eu des plans où il est seul, où il se crée des amis en glace pour ne pas se sentir seul. Je trouve ça touchant, je trouve ça intelligent, je trouve ça intéressant. C'est également un film très contemplatif. Les paysages, t'as envie de rester devant. Il y a une réflexion, comme je disais, sur la solitude énorme et également, évidemment, sur les préoccupations écologiques parce que ces castors, ils sont là, mais ils sont à la merde, quoi. Donc, c'est pas que un Bip Bip Coyote, quoi. C'est autre chose.
J'ai noté aussi, moi, en voyant le film, qu'il y avait de l'influence vidéoludique. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais le
Alors moi, je t'avoue que je suis pas très douée.
En fait, il y a cette idée qu'il y a une progression du personnage. Il commence à poil et puis petit à petit, il récupère des artefacts pour se faire de l'argent et commencer à se.
Oui, c'est vrai. T'as un côté jeu vidéo. C'est vrai que moi, je voyais le cadre cinéma se remplir petit à petit, mais effectivement, il gagne des. Bah oui, tout à fait.
En fait, c'est même un ressort comique.
Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai parce qu'en fait, donc pour nos auditeurs, on ne spoile pas, mais en fait, à chaque fois, il a quelque chose pour échanger. Il a une monnaie d'échange à chaque fois pour échanger contre d'autres objets et petit à petit. Il s'équipe en fait.
C'est ça. C'est maintenant, ça. Je pense que c'est pas trop grave de spoiler même non. un peu beaucoup ce film parce que on va dire que son attrait il est pas dans l'histoire, il est dans le traitement.
Bien sûr.
On va être d'accord. Pas d'accord avec ça jusqu'ici ou...
Oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais peut-être rajouter, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son côté. Alors, j'ai oublié le mot, mais textuel. Enfin, en fait, le truc, le toucher. Textures. La texture. Oui, je trouve que c'est un film qui a une texture, qui joue avec plein de textures différentes. Je pense notamment, en fait, un truc qui m'a marqué, c'est les poissons. Tu vois, les poissons qui sont en fait des espèces de gants de toilette ou quoi. Et tu as l'impression de les sentir, en fait. Tu as l'impression de voir le côté un peu spongieux. Et il y a ça avec plein de choses, avec les arbres.
Les poissons, c'est le plus impressionnant.
Mais les poissons, c'est le plus impressionnant. Tu as l'impression de les toucher.
C'est rigolo parce que rien n'a l'air réel, mais tu crois en tout.
Exactement, mais c'est ça que c'est incroyable comme truc.
Il y a un truc aussi, je trouve que ça va un peu réveiller l'enfant qui est au fond. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais un peu comme une gamine en fait qui essaie de faire une cabane. Tu vois, qui va faire une cabane et qui va imaginer que tout autour de nous, c'est notre petit monde, qui commence à construire son petit monde. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé à ce niveau-là.
C'est très juste, c'est vraiment un imaginaire qui est créé et t'as l'impression d'être dans la tête du réalisateur qui a créé son monde, mais totalement cohérent, où en fait, tu crois en tout, comme tu dis, quand t'es gosse. Tu as l'impression que tout est réel et c'est totalement ça, oui, c'est vrai.
Et même dans le jeu, finalement, des personnages et surtout du principal, un côté très naïf en fait. Comme si on jouait une pièce de théâtre quand on était enfant, on surjoue parfois certaines réactions. Oh, je suis fâchée, oh là là, je regarde là-bas et ça réveille le petit enfant encore en moi.
J'ai oublié de dire quelque chose sur ça. Donc, l'acteur principal, c'est très dur à prononcer, ça, je dois prendre mes notes, c'est Rylan Brixon Cole Tew, c'est le scénariste du film.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est le scénariste. Et il joue également dans Lake Michigan Monster.
Oui, j'avais remarqué que c'était le même acteur, effectivement. Ouais.
Donc, il est scénariste et acteur principal de ce film, mais il est très, très bon acteur.
Et je pense que la personne en tant que telle a l'air aussi extrêmement drôle, parce que, pareil, Instagram, j'ai été voir un peu sur les réseaux, et son Instagram aussi est incroyable, donc c'est vraiment des gens à suivre, je pense.
En tout cas, je pense que ça épouse assez bien, enfin, un film comme celui-là, parce que je pense que quelque chose comme ça en festival, ou même en termes de distribution, ça doit être assez difficile à vendre par rapport à l'esthétique qu'il a. Donc, d'où l'intérêt aussi de le chroniquer dans ce podcast. Il y avait deux, trois peut-être autres éléments, je ne sais pas si vous aviez des avis par rapport à ça, mais moi, j'ai eu l'impression que dans le côté multiréférentiel du film, il y avait énormément de genres cinématographiques par lesquels il passe, et qu'à chaque fois, il gère complètement les codes des genres en question.
Oui, on voit que le réalisateur, c'est un gars qui a bouffé du film. Quoi. Voilà. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, vierge. De tout, il s'est pas juste dit oh, je vais m'amuser à faire un film qui va imiter les Looney Tunes, quoi. Tu sens qu'il a
et d'ailleurs c'est marrant qu'on mette les chambres rouges en lien avec ce film là parce qu'il y a une scène dans le film qu'on pourrait mettre en lien avec les chambres rouges, la scène de procès. Il y a une scène de procès, moi j'ai vu cette scène.
Voilà, dans le sens gloubi-boulga multicouche, film à couche en fait et à couche humoristique, effectivement à un moment il y a un procès. Alors vous vous demandez comment, vous verrez. Venez voir.
Incroyable, vraiment, il y a un des. Moi, je pense que l'avocat, le pauvre avocat du personnage principal, m'a éclaté.
Il y a aussi par moments aussi un petit côté d'enquête policière, hein, évidemment, avec carrément le costume. Hein, on a le costume d'enquêteur.
Et pas n'importe quel enquêteur en plus.
Pas n'importe quel.
Mais vous verrez.
Je n'ose pas trop spoiler.
On va
c'est pour
trop spoiler ça, effectivement, parce que c'est des effets comiques quand même qu'il faut
mais
quand même pas dévoiler.
C'est magnifique, quoi. Oui, et le noir et blanc est parfait. Parce que tu comprends tout, malgré que tu n'aies pas forcément les couleurs hyper référencées de certains costumes, etc. Donc on ne spoil pas trop. Tu comprends absolument tout. La projection, ce sera le mercredi 17 avril au Pirate Movie Club. Pirate Movie Club, c'est un ciné-club dans lequel vous êtes invité à réagir. Vous pouvez réagir de façon vocale, forte, pas trop hurler.
Il faut
quand même laisser les gens regarder le film, parce qu'on en a quand même deux, trois qui s'emballent de temps en temps. Donc le but, c'est vraiment de venir boire un coup entre copains, manger des chips, regarder un film et profiter de la soirée de façon vraiment bon enfant. Et voilà, ça se passe au Cultivarium, qui est un super lieu ici à Liège, où vous pouvez acheter plein de choses en plus. Très, très beau lieu qui nous
c'est
accueille.
C'est un magasin de revente culturelle.
Ouais. Revente vinyle, livres, jeux, etc. Films, évidemment. Et ils nous laissent en fait leur cave de projection tous les mois. Et c'est un plaisir parce que le son est dingue, l'image, on a bel écran, tout. Donc ça vaut vraiment la peine de venir. Et surtout, c'est un événement gratuit. Juste, les portes ouvrent à 19h30 et c'est premier arrivé, premier assis. Donc n'hésitez pas à venir tôt pour avoir une jolie place. Sinon, on a toujours des coussins, des tapis, des trucs.
Hein. Et on projette à 20h.
On projette à 20h, c'est exact.
Je vais repréciser une dernière chose avant qu'on se quitte là-dessus. C'est que les événements, enfin les films qu'on va projeter là, en fait, ne sont pas distribués en Belgique. Donc autant pour les Chambres Rouges que pour Hundreds of Beavers, si vous ratez ces projections-là, vous ne pourrez pas les revoir. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez à ces projections.
Là, il faut nous
venez
soudoyer nous parce
bonjour.
Que nous, on a les films.
Non, on n'a pas les films. Si jamais il y a des, on n'a pas les films. mais voilà, donc n'hésitez pas surtout à venir nous dire bonjour. Donc je rappelle aussi également que ce podcast est mis en place par une structure qui s'appelle Mefamo, qui est un énorme collectif en fait où il y a plein de passionnés de cinéphiles, etc., dont vous faites partie. Donc à nouveau, je vous remercie.
Exactement.
En fait, à chaque fois que vous entendez quelqu'un intervenir dans Grindhouse, c'est des gens qui sont plus ou moins proches de cette structure.
Les enfants, comme les voilà, appellent Vlad.
Et que cette structure donc met en place le festival que j'évoquais, qui est en fait une délocalisation du festival Off-Screen qui s'appelle Off-Screeniage. Et dans ce cadre-là, évidemment, ce ne sont pas les deux seuls films diffusés. Si vous voulez en savoir plus sur l'entièreté du festival, sachez que ça se tient du 26 mars, donc ça a déjà commencé du 26 mars au 20 avril, et que l'entièreté de la programmation est disponible sur offscreen-liage.be.
Ouais. Et peut-être dire aussi qu'il y a des séances qui sont il faut réserver certaines séances, et donc il faut faire attention aussi si vous êtes intéressé par certaines choses. Il y a une adresse mail où vous pouvez donc réserver.
Exactement, sur info@offscreen-liage.be. Voilà, vous pouvez poser les moindres questions concernant la programmation de cette année. On vous répondra avec plaisir et rapidement. Et en attendant, on espère vous revoir au séance ou peut-être dans un futur podcast. Et moi, je vous dis à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.